les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Un hommage aux parrains de cette émission, la transmission d'un père à sa fille, les coulisses de la rentrée littéraire et un premier roman étonnant. Voici le sommaire de cette édition. Imaginez la vie d'une station-service comme dans un film, avec ses mystères, ses banalités et ses situations loufoques. Alexandre Labruf a choisi ce thème pour son premier roman et vous n'irez plus mettre de l'essence comme avant à la fin de cette émission. L'écrivain franco-djiboutien Abdourahmane Ouaberi revient avec une histoire de transmission, probablement une autofiction, touchante et idéaliste, comme dans ses contes africains qui réenchantent la vie. Bonjour Abdourahmane Ouaberi.
Bonjour Emmanuel Carad, et merci de m'avoir.
Je vous en prie. C'est donc une autofiction, c'est ça ?
Disons que c'est un retour à l'enfance. J'avais longtemps répugné parler de moi, et je voulais parler du monde tel qu'il va, tel qu'il boite.
Au passage, oui.
Au passage. Ouais. Cette fois, j'ai passé un peu l'âge de la maturité. Je me suis dit, peut-être c'était l'occasion de parler de moi et ma fille m'y a invité.
Bon, on va parler de ce livre ensemble et puis nous parlerons aussi de Jacques Chirac et de ses rapports avec l'Afrique avec vous tout à l'heure. Abdourahmane Ouaberi est dans la librairie francophone cette semaine. Nous retournerons à Morges en Suisse pour un entretien reportage avec l'éditrice Héloïse Dormesson qui se confie à notre micro en toute franchise sur les coulisses de la rentrée littéraire. Et puis nous recevrons dans un instant Pia Moustaki, la fille de Georges, qui raconte sa jeunesse dans un livre avec ce papa vagabond, Georges Moustaki, qui était le parrain de la librairie francophone.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Ça me fait rire avant même que vous commenciez, je ne sais pas pourquoi. Comment allez-vous ?
Ah bah tant mieux.
Vous êtes libraire en Belgique, à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. En France, il est tout sage. C'est Thomas Auxerre qui est avec nous cette semaine. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour
vous
Emmanuel.
Vous avez les yeux dans le vide, qu'est-ce qui se passe ?
Je réfléchis.
Rêvassez.
Je vous écoute.
Vous êtes libraire à Puteaux, dans la librairie L'Amandier. Bonjour Jérémy Lagnel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, avec un coup de gueule. Les fameux coups de gueule de Jérémy Lagnel. Ça commence tout de suite pour vraiment démarrer cette émission. Allons-y Jérémy.
Cette fois-ci, c'est un coup de gueule, pas tant vindicateur, plutôt réflexif, j'ai envie de dire, sur le magnifique parcours qu'a le livre « Querelle » de Kevin Lambert, publié au Nouvel Attila en France, qui avait été publié chez Héliotrope sous le nom de « Querelle » de Robert Val ici. On a entendu qu'il y a eu une adaptation qui s'est faite dans la langue, un livre qui a été sur les 10 pour 4 grands prix, le prix Médicis, lauréat du prix Sade tout récemment. Et là, on apprend qu'on a changé quelques mots, hein, parce que tout d'un coup, j'apprends que le québécois n'est pas le français, semble-t-il,
ah bon?
Et que « Maison mobile » n'existe pas en français, hein. On doit dire « mobile home ».
Oh non.
Mobile home.
Mais non.
Pouvez-vous croire, Emmanuel?
Non.
Moi, ça me scie les jambes, ce genre
c'est
de truc-là.
C'est honteux.
Je tiens à le mentionner, par contre, le travail a été fait en toute collégialité. L'éditrice au Québec, celui en France, l'auteur, tout le monde était d'accord. Donc, pour ça, ça s'est bien fait. L'éditeur français voulait avoir un livre qui pouvait proposer aux Français. Mmh. Mais je trouve ça vraiment d'une tristesse de ne pas avoir ce risque du langage qu'on pourrait avoir lorsqu'on propose des livres aussi francs et honnêtes dans la langue que Querelle de Robert Val de Kevin Lambert.
On est tout à fait d'accord. Et c'est comme si on réadaptait Régent du Charme, par exemple, ou Nelly Arcan, ça ne veut rien dire. Ils n'ont rien compris à la francophonie, ces gens-là. Je suis désolé, hein, c'est donc mon coup de gueule aussi au passage. Vous m'avez excité, Jérémy. Dominique Bressou représente la Suisse cette semaine, libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Et si vous nous disiez votre coup de cœur cette semaine pour tout adoucir, Dominique ?
Voilà, moi j'adoucis. C'est pour les enfants. C'est Roberto et Gélatine de Germano Zullo avec les très beaux dessins d'Albertine.
Ah oui.
Et je suis sûre que parmi tous les auditeurs et les auditrices, il y en a beaucoup qui connaissent de près quelqu'un qui écrit un roman ou une autobiographie, etc. Et dans le feu de l'action, cette personne oublie le monde qui l'entoure, presque autant que les gens addicts des réseaux sociaux, des téléphones. Les stratégies de Gélatine, la petite fille, pour attirer l'attention de Roberto, ça amusera beaucoup les enfants et en prime, ça plaira aussi aux auteurs en devenir. Mmh. Et le sous-titre, en fait, de ce petit livre, il annonce qu'il s'agit d'une grande histoire pour les grands, mais en fait, c'est vraiment une petite histoire charmante pour les petits.
Germano Zullo et Albertine, des références pour la littérature jeunesse, Roberto et Gélatine, à la joie de lire. Merci beaucoup, Dominique. On commence aussi cette émission avec une histoire personnelle, cette fois en ouverture d'émission. Vous savez qu'elle est flottante cette année. Premier roman, première émission de Radio Internationale. Bonjour Bonjour Alexandre Labruf.
Bonjour Emmanuel.
C'est vous qui avez cette mission confidence aujourd'hui. Quelle anecdote avez-vous choisi de nous raconter, Alexandre ?
Mission périlleuse. Je vais vous raconter mon retour sur le sol français. Alors j'étais en Chine, je suis resté en Chine, en Corée du Sud, 8 ans. Et je suis revenu en 2016, en octobre 2016. Et pour fêter mon retour et ma reprise d'inactivité, je vais dans des bars et je fête, voilà. Je bois, on rencontre un Brésilien qui nous offre je ne sais quoi et donc je suis avec ma compagne qui est coréenne et qui est punk un petit peu. Donc je sais pas, il est 2h du matin, on s'en va, on veut s'en aller donc et tout d'un coup, elle venait de voir Amélie Poulain et elle se met à crier dans la rue. Mmh. À se mettre à crier. Ah
Mélie, et là à Amélie.
Ah, Amélie, peut-être, je sais pas vraiment, Amélie crie. qu'est-ce qui se passe? Oui. Les gens pensent que je la frappe. Donc on l'isole, on la met dans un bar, et je veux la rejoindre, on m'empêche, le serveur m'empêche de la rejoindre, et là quelqu'un dit, mais vous voulez appeler la police? Elle dit oui, parce qu'elle comprend pas très bien le français. Donc, quelqu'un appelle la police. Et là, qu'est-ce qui se passe? La police arrive. Qu'est-ce que je fais? On est en 2016. Réaction très intelligente. Je cours. Vers qui? Vers eux. Après, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé au sol, presque menotté, mais en tout cas en joue. Et après, bon, voilà, le malentendu.
Et donc?
Est terminé.
Pourquoi? Pourquoi a-t-elle crié?
À cause du film, je crois.
Mais juste, ah, carrément.
Ouais.
Ah oui.
Elle peut-être est... juste le lendemain, j'ai retrouvé. Et ça, c'est le plus étrange dans cette histoire. Oui. J'ai retrouvé.
On n'a pas derrière... tout peur, hein, Alexandre.
Oui, d'accord.
Hein.
J'ai juste retrouvé sur mon manteau, scotché, recyclé cette poubelle. Alors, je sais pas qui a mis ça, le Brésilien, les policiers, voilà.
Bon, ça va mieux sinon? Elle va mieux depuis?
Oui, moi aussi.
Faut arrêter ce film. Arrêtez tout de suite. Bon, merci pour cette histoire. On parlera de cette station-service avec vous tout à l'heure. Alexandre Labruffet dans cette émission aujourd'hui. Et bonjour Pia Moustaki.
Bonjour Emmanuel.
Dans Filles de Métèque, vous racontez la vie de votre famille et la vôtre, évidemment. Ça n'a pas été facile de vivre avec des parents artistes?
Non, ça n'a pas été facile, mais on s'habitue. L'enfant s'habitue à tout. Ça n'a pas été facile non plus d'écrire cette histoire parce que c'est deux histoires. C'est l'histoire de ma famille orientale, donc mon père, Georges Moustaki. Et du côté de ma mère, c'est Roscoff, ma mère, Annie Kozanek, donc la Bretagne.
Ouais,
et donc
ouais.
La rencontre de ces deux mondes, c'est moi.
Alors votre père était un voyageur, on le sait, un vagabond même, aimait-il dire. Né en Égypte, il fera des allers-retours avec la France et ne sera naturalisé qu'en 1985. Ses parents étaient libraires. Dans une célèbre librairie d'Alexandrie où de nombreuses personnalités passaient, nous en avons parlé ici,
oui.
Parce que Georges Moustaki a été le premier invité de cette émission quand on a fait le premier pilote.
C'est ce que j'ai découvert voilà. Quand vous l'avez dit
et
tout à l'heure.
Et il a suivi comme ça jusqu'à sa mort. Il évolue comme ça dans un confort culturel, vous pensez, votre papa?
Alors déjà, le nom de cette librairie, j'aimerais citer, c'est justement la Cité du Livre à Alexandrie, qui est devenue très connue dans tout le Moyen-Orient. Et donc, oui, c'était un voyageur, et puis très multiculturel, en fait. Il aimait beaucoup de pays, il a beaucoup voyagé, et donc j'aimais beaucoup une phrase qu'il disait, que j'ai mentionnée dans mon livre, il disait « chez nous au Québec, chez nous en Italie, chez nous en France, bien sûr ». Et donc, il s'appropriait comme ça, il aimait beaucoup les rencontres avec les gens et les pays.
Alors, vous racontez sa relation avec Édith Piaf aussi, alors qu'il est toujours avec votre mère. Et vous allez vous-même chez Édith Piaf. Il lui écrit « Milord ». Et c'est à partir de ce moment-là que Moustaki va vraiment se faire connaître. On a réalisé un montage qui rassemble Georges et Édith. On écoute, et puis après on parle des deux.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous
faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Pia Moustaki, comment vous l'avez vécu, cette relation entre Édith Piaf et votre père?
Bah, j'étais trop petite pour avoir une idée, une opinion. C'est surtout ma mère, comment elle a vécu d'une façon très classe la relation extra-conjugale de mon père. C'est-à-dire qu'elle a accepté, en fait. On était dans une époque aussi où on ne s'appartenait pas. On acceptait que l'autre soit libre. Ils se sont mariés pour mon père, pour qu'il ait sa carte de séjour et qu'il puisse rester en France. Mais c'était un petit peu... juste pratique. C'était pas, ils n'étaient pas tellement pour le mariage. Ensuite, quand elle a appris la liaison de mon père avec Piaf, elle a dit mais être trompée par Piaf, on n'est pas trompé. On n'est pas trompé quand c'est Piaf.
Ah, c'est vrai. Ah oui,
donc,
elle a dit ça.
Ouais. Oui, et donc mon père, comme il a été bon, il sortait beaucoup, il a voyagé avec Piaf, il était jusqu'à New York, etc. Et donc Piaf était très étonné justement de la réaction de ma mère. Et donc elle a dit, cette femme est exceptionnelle, je voudrais la rencontrer. Et mon père a dit à ma mère, bah, écoute, Edith voudrait te rencontrer parce qu'elle apprécie beaucoup que tu ne fasses pas des scènes de ménage et autres. Voilà, et donc ma mère a, dit, a réfléchi un petit peu d'abord. Et elle a dit, d'accord, je veux bien rencontrer Edith. Et mon père a répondu, bon ben on y va. Et elle a dit, non, je vais rencontrer Edith.
Elles se sont dit des choses.
Et là, j'aurais aimé savoir un peu.
Ça reste le mystère.
Mais j'ai pas pensé... Le temps du vivant de ma mère de lui demander, j'aurais dû.
Bon, vous voyagez avec votre père, Georges Moustaki, le Liban, la Tunisie, l'Italie, l'Égypte, bien sûr, le Canada aussi. Et vous grandissez comme ça avec cette ouverture sur le monde. On va y revenir parce que vous enregistrez un titre avec un malgache. Oui. Un jour, on va écouter un extrait. Juste avant, il y a nos libraires. Pierre Moustaki, il y en a deux qui ont lu votre récit. Dominique Bressoux pour la Suisse. On va commencer avec elle. Dominique.
Oui, alors bon, ce qui m'a un peu gênée, moi, dans ce livre, c'est l'abondance des noms de gens célèbres et d'anecdotes pas très significatives et, à mon avis, peu importantes qui encombrent un peu le récit de cette vie qui sort pourtant de l'ordinaire. Mais en même temps, en ne prenant en compte que l'aspect factuel de cette autobiographie, ça nous permet de nous mettre tour à tour à la place de Pia, de Georges Moustaki, de Yannick, à cette époque qui est déjà presque lointaine, mais sans les juger.
Déborah Damblon, pour la Belgique, vous n'êtes pas du tout d'accord au sujet des personnalités, vous.
Mais non, 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 pas du tout. Mais il y a deux choses, moi, qui m'ont vraiment intéressée dans ce récit. C'est, d'une part, ben, le nombre de pièces iconographiques et de souvenirs qui émaillent le livre, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment original et que ça lui donnait un vrai, vrai relief. Et puis, justement, par rapport aux personnalités, ben, ce que j'ai aimé, c'est... la bienveillance et le non-jugement que vous utilisez ou n'utilisez pas pour parler de ces personnalités. Et puis, c'est cette galerie de personnalités qui nous montre qu'au fond, ben, ce sont jamais que des gens comme les autres. Hein.
C'est vrai que vous allez être avec lui. À un moment, vous allez être même sa secrétaire particulière. Oui, et vrai. Vous allez côtoyer toutes ces personnalités. Vous occupez même de sa naturalisation. Vous côtoyez à ce moment-là Jacques Higelin, Coluche ou encore George Harrison. Oui. Et un certain Renaud. Avec qui vous avez eu presque une petite aventure au lycée. Vous étiez amoureuse de lui parce qu'il était dans le même lycée que vous.
Oui, c'est-à-dire que ça a été mon premier vrai baiser. Ouais. Donc voilà, on s'en souvient. Et là, je ne l'ai pas connu par mon père, je l'ai connu au lycée par moi-même.
Et donc, il arrive chez votre père parce que votre papa veut lui proposer une chanson.
Ça, c'était bien plus tard, quand il était déjà connu, Renaud. Ouais. Ouais. Parce qu'à l'époque où j'étais au lycée avec lui, il commençait à gratouiller sa guitare. Et donc, oui, il voulait lui proposer une chanson, effectivement. Et, mais là, mon père était un petit peu en perte de vitesse, il faut le dire. Et Renaud n'avait pas tellement besoin d'une chanson de Moustaki. Il avait déjà sa notoriété qui était confortable. Et donc, il a refusé le titre. Et donc, j'ai pas trop, par pudeur, demandé à mon père qu'est-ce que c'est que cette chanson, pourquoi il a... Enfin, après, on n'en a pas parlé. C'était un peu tabou.
C'était
comme
un
sujet.
Peu tabou. Ouais. Il y avait pas mal de sujets tabous. Votre féminité aussi, ça le dérange un petit peu, ça.
Oui, c'est vrai. Parce
vous dites
que...
qu'il est un peu dur avec vous.
Ouais, il a été un petit peu dur, c'est vrai, parce qu'il aimait beaucoup l'enfant que j'étais. On s'entendait très bien. Et quand j'ai commencé à grandir, il aimait pas trop mes compagnons non plus. Il était assez jaloux de que je veuille aller. Par exemple, à l'île de Wight avec le futur père de ma fille, plutôt qu'avec lui dans l'avion privé de Donovan, alors que j'adorais Donovan. Ça a été d'ailleurs un de mes premiers albums. Mais ben, c'est vrai, je comprends la première personne qui est intervenue aussi, où il y a beaucoup de noms, mais j'en ai enlevé, en fait, parce que je ne voulais pas non plus faire un étalage de mes rencontres.
Parce qu'il y en avait à l'époque.
Avec, hein. Oui, mais j'ai rencontré des gens dont je n'ai pas parlé, parce que j'ai rencontré quasiment que ça. J'étais vraiment dans ce milieu. C'était pas pour le faire étalage de ça, du tout.
Et puis, il y a Mario Lima. Alors, c'est le guitariste de
Georges Moustaki. Ah oui, Mario. Il nous a quittés il y a très peu de temps. Oui.
Et Mario, vous couchez avec lui, carrément.
Ah bah, j'ai eu une aventure.
Et votre père vous trouve dans le même lit que lui. Ça le rend fou furieux.
C'est vrai.
Il vous interrompt la tournée.
Oui, oui, oui.
Et il vire tout le monde. Non, Mario et vous, non?
Ah oui, Mario et moi.
Ouais, pas tout le monde, non. Tous les deux, en tout cas.
Oui, il aurait pu péter les plombs et arrêter de chanter aussi. Non, mais c'est vrai que c'est grâce à Mario que mon père déjà a su que je chantais. parce que en dehors des moments où j'ai enregistré elle et elle, en dehors des moments où j'étais avec
le
mon père,
avec lui, oui.
On se voyait de temps en temps avec les autres musiciens, pas que Mario d'ailleurs, et Mario m'a un peu montré quelques accords de guitare, il m'a fait chanter des chansons un peu, surtout brésiliennes, il était brésilien, et il m'a dit mais t'arrives bien à choper les arythmies, justement les choses un peu syncopées et tout, et donc il a dit à mon père... Oui, il m'a dragué aussi. Et il a dit à mon père, tu sais, Pia a une jolie voix, elle chante très bien les morceaux brésiliens, etc. Et mon père m'a dit, ah bon ? Et c'est comme ça qu'est venue la proposition de chanter Elle et elle.
Et vous allez chanter, Pia Moustaki. Mais Georges ne va pas vraiment vous encourager dans ce registre-là. Vous comprenez après que c'était un peu pour vous protéger du milieu. Ou peut-être pour être seul, vous faites la moue parce qu'il y a toujours ce doute-là dans les familles d'artistes.
Il y a ça aussi.
Et pourtant, en 1985, vous enregistrez un 45 tours avec le poète malgache Roger K.
Oui.
Wacha, Wacha, sacré souvenir, 1985, et vous êtes marqué par votre voyage à Madagascar avec ce titre, Pia Moustaki, parce que vous partez en tournée là-bas, et vous dites « Je découvre un autre monde où le temps s'écoule tranquillement, mora mora », ce qui veut dire tout doucement en malgache.
Ça se prononce « mora mour », comme l'amour en fait. Oui, c'est vrai que j'étais jamais allée aussi loin. Ça m'a transportée. En plus, je venais de perdre pas longtemps avant le père de ma fille.
Oui.
Donc, j'avais besoin de me reconstruire.
Gilda, oui. Qui meurt à 29 ans d'une crise cardiaque.
Oui, c'est ça. Et ma fille avait 8 ans, donc c'était très très dur. Et donc, j'ai retrouvé Roger qui était reparti à Madagascar et revenu longtemps avant. Il m'avait donné quelques cours de guitare. Et on a emmené 9 musiciens de Paris, on a monté une tournée, mais on l'a fait en 2 mois, très rapidement, pour monter tout un périple dans toute l'île, en fait, la grande île.
Voilà, ce voyage permanent grâce à votre père. Aujourd'hui encore, je suppose que vous continuez à voyager, vous êtes ouverte sur le monde. On parlera de ça avec Abdourahmane Ouabéry tout
avec
à l'heure.
Plaisir.
Merci beaucoup, Pia Moustaki. Vous allez rester avec nous, bien sûr.
Bien sûr.
Fille de Métèque est paru chez Plon. On va poursuivre ce voyage au Brésil. D'ailleurs, on va rester en musique avec un titre qui va vous rappeler des souvenirs. Voici Bahia, composé par Mario Lima, vous savez, l'ex de Pia. L'une des grandes et belles chansons de Georges Moustaki. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Georges Moustaki, bye.
Bahia de San Salvador, c'est là qu'un beau jour a commencé le Brésil et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil et parle la langue du Portugal. Bahia de pêcheurs et marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. C'est là que les hommes savent encore se battre, pieds nus ou à main nue ou au couteau, pour les beaux yeux d'une jolie mulâtre, au risque d'y laisser la peau. Bahia de pêcheurs de marins, Bahia de filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. J'ai écouté chanter les fils de Gandhi, j'ai vu danser les filles de Xangô. C'est là que j'ai retrouvé le paradis, du côté de chez Georges Amado. Bahia de pêcheurs de marins, Bahia des filles du port.
Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador.
Comme ma chanson n'était pas terminée, je l'ai emportée avec moi. Je reviendrai un jour te la fredonner sur la plage d'Itapua.
Bahia des pêcheurs des marins, Bahia des filles du bois, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. Bahia des pêcheurs des marins, Bahia des filles du bois, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador.
Georges Moustaki avec Bahia, titre de 1977 que Moustaki reprendra d'ailleurs et réenregistrera avec un rythme plus rapide en 2005 sur son album Vagabond.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et nous allons vous parler à présent d'un premier roman signé Alexandre Labruffe qui a imaginé un projet risqué de raconter la vie d'une station-service. C'est un lieu fantasmé, la station-service pour vous Alexandre ?
C'est effectivement ce qu'on disait avec Pierre Moustaki, c'est le lieu de tous les fantasmes, la station-service.
Ah oui, quel genre ?
Les miens.
Non mais quel fantasme on a dans une station-service ?
Alors, en fait, je voulais faire de la station-service l'héroïne parce qu'elle parle de... L'air de rien, c'est un sujet faussement pas sérieux. Elle porte les germes de la fin du monde en elle et aussi elle symbolise un petit peu notre gentille toxicomanie.
Ouais.
À l'essence non seulement, mais aussi à la junk food, puisque dans ma station
service,
on y vend de tout.
Alors on imagine votre station en périphérie de la ville, pas loin d'une route nationale et d'une autoroute, un peu à l'écart, mais qui est pourtant au carrefour des vies des automobilistes. Et vous le dites, ma station service est au centre du monde. Je représente le socle de la société moderne, je suis au sommet de la pyramide de la mobilité. Les gens ne font que passer, tout y est transitoire et fugitif, symbole du temps qui file.
Oui, et le pompiste d'ailleurs, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il dit, sans moi, la mondialisation n'est rien. Parce que c'est l'ordinaire d'un pompiste qui est déphasé, qui fait tout sauf gérer sa station-service. Enfin, il la gère avec nonchalance, avec un petit peu d'inattentisme, comme il faut. Et tout en observant le monde, et c'est un monde qu'il ne comprend pas, ou qu'il ne comprend trop bien. C'est-à-dire les gens qui traversent cette station-service, ça peut être des VRP, des motards, des jeunes,
des vacanciers.
Vacanciers,
aussi.
Des punks, des SDF punks, qui en y revient bizarrement, des prêtres aussi, il y a un prêtre qui traverse, et du coup c'est un monde qu'il ne comprend pas, et c'est comme s'il était dans une station spatiale qui était échouée sur une étrange terre en fait, peuplée d'étranges créatures que nous sommes, donc c'est aussi un moyen pour moi de parler de l'absurdité de notre monde, et aussi de réenchanter cette station-service.
Mais c'est ça. Ouais. Vous analysez sociologiquement la société de consommation, la société mobile comme elle l'est, à travers finalement le prisme de cette station-service, des petites micro-fictions, on va dire, parce qu'il y a des petites histoires ça.
Je les appelle des nano-fictions.
Oui, c'est ça. Oui. C'est parfait. Ça me va tout à fait. Nano-fictions. On se demande où vous allez avec, mais en fait, ça donne du relief au récit. Mais c'est surtout une analyse sociologique, Alexandre Labruffe, ce livre.
C'est un moyen de scanner, c'est vrai, la station-service, d'en faire l'héroïne du roman, de scanner au scalpel un petit peu le monde tel qu'il passe, avec le prisme aussi de Monsieur Baudrillard, que notre pompiste adore et il le cite, mais il le détourne, parce que c'est jamais là, je dirais pas, je vais pas spoiler le livre, ou divulgâcher, mais il pense baudrillardien, il mange baudrillardien, et du coup, il cite Baudrillard, mais de manière détournée.
Voilà. C'est un peu l'oasis dans la nuit, la station-service. Votre personnage employé de cette station va regarder d'ailleurs des films pour s'occuper entre deux clients. Et notamment, très évocateur, et dont la musique pourrait d'ailleurs être la BO de votre livre, un film, Mad Max, le premier. Écoutons ce que ça donne et ça va mettre tout le monde dans l'ambiance. Alexandre Labruffe.
C'est flip. dépend.
Dans votre livre, Chronique d'une station-service, votre personnage se pose la question de la disparition du pétrole. Et Mad Max, finalement, Alexandre, c'est le cauchemar du pompiste.
Oui, alors là on est quand même avant la catastrophe, c'est-à-dire la catastrophe qui va advenir avec la fin du pétrole, et du coup ma station-service elle symbolise un monde un peu de mélancolie, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui existe encore, hein. Et donc ce pompiste a cette conscience aussi que, en même temps d'être, sans lui la mondialisation derrière, mais aussi en même temps il est messager de l'apocalypse et du déluge à venir. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la société de consommation, oui je la décris, oui je la scanne, mais c'est aussi avec beaucoup d'ironie. Beaucoup d'humour. Il regarde surtout des séries du cinéma de série B, en fait.
Ouais, c'est ça.
Des films japonais improbables.
Vous avez travaillé dans une station-service, vous ?
J'ai essayé.
Ah, c'est ça ?
Mais on m'a recalé.
Pourquoi ?
Trop de diplômes. J'ai essayé de dégrader, en fait.
Non, mais trop de diplômes. Fallait mentir.
Mais non, mais j'ai essayé de mentir et j'ai essayé de dégrader mon CV, mais ça n'a pas marché. Par contre, j'ai zoné de nombreuses heures dans les stations-service. C'était mes vacances, je les ai passées dans les stations-service.
Vous êtes très, très particulier, Alexandre Labruf, vous savez.
Oui,
on vous l'a déjà dit, tu m'étonnes. Les trois libraires ont lu votre livre, Alexandre Labruf, Le Canada, la Belgique et la France. On commence par qui ?
C'est moi qui décide.
Oui.
Allez, le plus loin.
Le Canada,
voilà.
Et c'est le plus dur. Allons-y, Jérémy Laniel.
Vous dire, Emmanuel, le plaisir réel que j'ai eu à découvrir le monde sous la lorgnette de Labruf. Vraiment, c'est un écrivain brillant. Le livre est rythmé, c'est concis, comme on en lit trop rarement. À mon avis, là, Chronique d'une station-service, ça fait partie de ces rares bouffées d'air frais là, que nous promulgue la rentrée littéraire. Et ne serait-ce que pour ça, j'aimerais l'en remercier. Si son personnage veut être baudrillard à plusieurs moments, moi, j'ai voulu être pompiste tout au long de la lecture.
Complètement d'accord. Déborah Damblon pour la Belgique.
Ben oui, moi c'est incroyable parce que j'avais l'impression que vous aviez écrit ce livre, mais rien que pour moi toute seule. Bon, je vois que non, mais je pensais être la seule à être fascinée par les stations-service et puis voilà, on est tout plein. Vous arrivez vraiment à donner vie à ces espèces d'utérus géants.
Et utérus, en plus,
Ah ouais.
Il note, Alexandre.
Mais oui, mais vous n'en avez pas, les gars, croyez-moi. Mais parce qu'il y a ce côté protégé, protecteur, mais où en même temps, on n'est pas tout à fait libre de qui on est, de ce qu'on va faire. Franchement, c'est ça. Enfin, la vie d'une fille, quoi, écoutez-moi.
C'est terrible. Alexandre Labruf, une réaction.
Oui, bah, utérus, je crois qu'hystérie vient du... dans hystérie, il y a utérus, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est le lieu de l'hystérie. Mais c'est vrai que mon pompiste considère sa station-service comme une capsule protectrice, qui protège du monde.
Oui, ça, mais un utérus, c'est protecteur aussi.
Oui, oui c'est bon, Déborah.
Je m'en souviens pas.
Merci. Vous écrivez d'ailleurs « La pénurie, c'est l'hystérie ». Parce qu'on est prêt à tout pour avoir de l'essence. Vous l'expliquez que quand il y a une grève ou une menace de grève, il y a des files partout, des files d'attente. On a peur de manquer d'essence.
Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils travaillent autant, c'est en jour de grève, puisque les files s'allongent, les automobilistes sont hyper énervés, veulent à tout prix du pétrole. Il y a une rumeur qui circule comme quoi ça sera la première station-service ravitaillée. Donc on demande des seringues de sans-plomb.
Allez Thomas Auxerre, concluez cet entretien. Quel est votre point de vue ?
Alors écoutez-moi Emmanuel, il m'arrive d'être un petit peu dubitatif lorsque j'ai entre les mains un livre aussi curieux par sa forme, avec des chapitres très courts, des lieux jamais trop clairement définis. Il y a un petit côté un peu littérature de laboratoire. Et bien là, Emmanuel, j'ai beaucoup aimé. C'est onirique et très tendre. Il se passe des choses. Et puis moi, votre personnage principal, j'ai trouvé super attachant. Donc moi, je recommande chaudement.
Mais c'est vrai, on le recommande, ce livre, Alexandre Labruf. C'est très étonnant. On s'y attendait pas. Hein. Franchement, on s'est dit où est-ce qu'on va avec ce livre. Et finalement, Chronique d'une station-service, c'est la surprise, une des surprises de cette rentrée littéraire. Ça vous va ?
Oui, ça me va. Merci. C'est vrai que la station-service, c'est un peu le non-lieu du romanesque. C'est un non-lieu, mais c'est aussi le non-lieu du romanesque. Et autant le cinéma s'en est emparé dans tous les films que je me suis amusé à regarder, il y en a partout, au début, à la fin, etc., au milieu, mais le roman, il n'y en a pas.
C'est vrai. Et il y a une histoire de langouste morte à cause d'un durian, vous savez, le fruit avec des épines qui sent mauvais. Il faut lire ce livre rien que pour l'histoire des langoustes. Merci Alexandre Labruf.
Merci à vous et merci au libraire.
Chronique d'une station-service, c'est chez Vertical et il fait partie de la sélection pour le prix Femina. Bonne chance à vous donc, c'est votre premier roman en cette rentrée littéraire 2019. La rentrée littéraire, comment ça se passe pour un éditeur ? Quels sont les enjeux, les intérêts ? Eh bien, nous avons posé la question à Héloïse Dormesson en Suisse. Écoutez donc ce petit entretien-reportage. Bonjour Héloïse Dormesson.
Bonjour Emmanuel.
La rentrée littéraire commence chaque année finalement en Suisse, à Morges, au festival Le Livre sur les Quais. C'est un peu l'événement phare, le premier salon du livre. de la saison. Comment vous gérez-vous en tant qu'éditrice indépendante la rentrée littéraire? Comment ça se passe pour vous?
C'est un moment à la fois exaltant, fébrile, parce que tout est possible. On sait qu'il va y avoir un peu de casse, qu'il y a des livres qui coulent un peu à pic, parce que il y a quand même énormément cette année, je crois plus de 560, même si ça a été légèrement réduit par rapport
524,
à... 524, oui. Alors, 524. Bon, alors voilà, l'année précédente, ça devait être 580.
Oui, c'est ça.
Donc c'est un tout petit peu réduit, mais ça fait quand même énormément de livres, un certain engorgement, et il y a peu d'élus. On est tous sur la ligne de départ, et c'est comme une course sportive. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir franchir des obstacles. C'est un triathlon. Il faut être bon dans tous les exercices.
Dans les médias.
Dans les médias, la promotion. Et il y a des auteurs qui démarrent très fort. Puis après, ça s'essouffle. Et d'autres, le démarrage est plus lent. Mais finalement, sur la longueur et sur la durée, ça se passe bien. Donc voilà, là, tous les espoirs sont permis. Donc c'est vraiment le moment encore très agréable. Après, on peut avoir un petit peu de gueule de bois.
C'est plus angoissant, d'après vous, pour un éditeur ou pour l'auteur de faire la rentrée littéraire?
Alors moi, je dois dire que je ne programme jamais un auteur en rentrée littéraire s'il n'a pas envie de le faire. Parce que c'est un moment qui peut être cruel, parce qu'il y a des auteurs qui aspirent à être sur des listes qui, là, commencent à tomber. Et
les prix, oui.
Les prix, et vous voyez que le nom n'est pas sur la liste, donc ça peut être vraiment douloureux. Et puis, encore une fois, c'est un moment où on peut ne pas parvenir à relancer un livre. Ça peut être grisant, parce que tout d'un coup, le livre marche, et vous le voyez, et c'est un tremplin qu'il n'y a à aucun autre moment, parce que les médias qui ne s'intéressent pas nécessairement, oui, au livre se penchent sur la question du livre. Donc c'est un moment qui peut être tout à fait propice à certains livres.
Tout le monde s'y met, quoi.
Tout le monde s'y met, mais c'est aussi un moment où vous pouvez être dramatiquement cloué sur place, quoi.
Y a-t-il une stratégie, Héloïse d'Ormesson, par rapport au prix? On se pose souvent la question, on imagine plein de choses, on imagine qu'il y a des connivences, les membres du jury du prix Goncourt disent l'inverse. On imagine qu'il y a le forcing de certains éditeurs. Est-ce que vous êtes dans la stratégie des prix dans la rentrée littéraire?
Assez peu. Nous, on a toujours misé plutôt sur les libraires. Je pense qu'il vaut mieux miser sur les libraires qui, vraiment, tous les jours, soutiennent et poussent et accompagnent nos livres, qu'un prix littéraire qui est très aléatoire. Alors moi, je dirais que... Évidemment, il y a des affinités, il peut y avoir des connaissances avec certains membres de jury, mais je veux dire que c'est très difficile. Moi, je vois, quand on regarde la rentrée, choisir sur ces 520 livres, en choisir 18 ou 20, il faut faire des arbitrages qui sont difficiles. Et si vous avez dans le jury quelqu'un qui emporte l'adhésion, en étant convaincu que tel livre est génial, ben bon, ça peut tout à fait expliquer. Non, les prix, c'est...
C'est mystérieux quand même.
C'est mystérieux. C'est imprévisible et improbable. Enfin, voilà.
On a l'impression que personne n'a envie de s'exprimer vraiment.
Non, mais parce que...
Ça porte la poisse ou il ne faut pas se mettre à dos certains? Comment ça se passe, Héloïse?
Mais pas seulement. C'est vraiment... En plus, ce que vous pouvez dire sur le jury Goncourt n'est pas vrai pour le jury féminin, parce qu'il y a vraiment... C'est quand même des groupes et des petits cénacles qui n'ont pas du tout les mêmes personnalités. Il n'y a pas... une vérité sur les prix.
Qu'est-ce qu'il en pensait, votre papa, Jean d'Ormesson, des prix littéraires?
Bon, ça l'amusait. Mais bon, il participait, parce que,
oui,
évidemment, tous les ans, il se penchait. Il faisait partie de la commission. L'Académie, c'est assez particulier. Ils ont une commission roman qui choisit une première liste avant que les académiciens ne votent. Alors lui, il adorait, il était très, très, très curieux, et dépouiller la rentrée, ça l'amusait. Parce qu'il savait qu'il allait découvrir des pépites, il essayait de découvrir 4 ou 5 livres qu'on lui avait moins signalé. Il furetait par lui-même.
Il était dans un bain de livres, je me rappelle de son bureau envahi de livres. Incroyable. Nous, on dit à la librairie francophone, on a un bureau incroyable, alors Jean d'Ormesson, c'était un truc de fou.
Ah oui, les livres étaient des totems.
Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, il y a là une particularité, Héloïse d'Ormesson. Vous avez 3 auteurs pour cette rentrée littéraire, donc vous faites un choix très précis. C'est le cas de certains éditeurs. L'année dernière, le Tripode, qui avait misé sur un seul auteur et qui avait eu le prix Renaudot avec Valérie Manteau. Et là, vous avez 3 auteurs.
Nous avons deux de nos 3 auteurs de la rentrée qui sont là à Morges. Annabelle Combes avec sa Calanque de l'aviateur.
Et... Bonjour Annabelle.
Bonjour à tous.
Et Colin Thibert avec Torrentius. Colin est franco-suisse et son Torrentius est un peintre flamand qu'il a redécouvert. Quant à Annabelle avec sa Calanque, la Calanque de l'aviateur est en fait une librairie. D'accord. Une librairie d'un genre assez particulier, parce que cette librairie choisit ses lecteurs.
Bonjour Colin Thibert.
Bonjour.
Comment ça se passe une rentrée littéraire quand on est auteur? On a vu ça avec l'éditrice, Héloïse. Est-ce qu'il y a une effervescence ou un stress particulier?
Une effervescence certainement, un stress on essaye de ne pas l'éprouver, mais enfin devant l'immense concurrence qu'il y a, c'est assez impressionnant quand même. Comment se sortir du lot? Je ne sais pas.
Peut-être quand on est franco-suisse, ça favorise des choses ou pas?
Je l'espère, je me raccroche à n'importe quel espoir.
C'est un stress pour vous, Annabelle?
Aucun stress pour moi, parce que je trouve que c'est une période absolument fascinante. Moi, je le vis super bien.
Colin, quand on arrive à la rentrée littéraire chez Héloïse d'Ormesson de surcroît, est-ce qu'on pense aux prix qui vont venir?
Honnêtement, non. Je ne pense pas à ça.
Voilà. Vous préférez ne pas y penser ou vous n'y croyez pas?
Je préfère ne pas y penser. C'est peut-être une forme de superstition aussi.
Nous, on est chez Héloïse, donc on ne peut être que serein. C'est une maison, donc on est vraiment dans une maison d'édition. Donc après, ce sont les rencontres.
Elle est très bienveillante, Héloïse, faut le dire quand même.
Oui, elle est très bienveillante. Et puis après, vous savez, il y a les miracles des prix. Moi, j'en ai eu un sur mon premier roman, un prix littéraire Rotary. Donc je crois pas qu'on y pense, ils viennent quand ils viennent.
Bon, merci à tous les deux, Colin Thibert, Torrentius. Donc c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson et Annabelle Comble, la Calanque de l'Aviateur également. Je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Héloïse d'Ormesson.
Merci, Emmanuel.
Bonne rentrée, bonne saison.
À vous aussi.
Et à suivre, le nouveau roman d'Abdourahmane Ouabéri qui nous emmène à Djibouti, en France, avec quelques confidences très personnelles. Avant ce voyage africain, voici la chanteuse Marie-Flore dans la librairie francophone.
Tu sens bon, mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin, je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clins, de façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi deux secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi deux secondes. Deux secondes. Tu peux m'écrire tous les mots que t'as jamais su dire. Toi ferme là, tais-toi. Tâter le terrain, y'a pas de mi-temps, c'est juste la fin, lâche-moi la main. On verra bien si ça se dérobe ou si jamais il te retient. Nous deux c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal que de bien. Nous deux c'était rien. Nous deux c'était rien. Toi ferme-la, tais-toi.
Le nouveau titre de Marie-Flore avec Tout ou Rien.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et la chronique des libraires, deuxième partie avec un coup de cœur en France signé Thomas Auxerre. Vous avez vu ce lancement ?
Bravo, ah oui, je suis content. Alors en fait c'est pour un livre qui mérite beaucoup parce que c'est le dernier livre de Sylvain Prudhomme qui s'appelle Par les routes.
Encore ?
Ouais, sous édition L'Arbalète Gallimard.
On en a parlé ensemble peut-être.
On a parlé ensemble. Alors en fait, quand on regarde l'histoire, c'est un trio amoureux. Hein. On suit un narrateur qui, des années après avoir perdu de vue un de ses amis d'enfance, qui lui a refait sa vie, bah voilà, il se revoit, il se refréquente. On sait qu'il y a eu une cassure, on sait pas à quel moment, mais l'ami là, il disparaît un petit peu. Donc le narrateur, bah, il va commencer à prendre sa place dans cette famille. Et puis voilà, j'en dis pas plus. C'est une histoire qui a l'air banale, mais alors en fait, il y a un suspense poétique qui est d'enfer. On a envie de savoir ce qui se passe. C'est aussi une histoire sur le désir, l'amitié. Enfin, franchement, c'est vraiment un des titres à suivre de la rentrée littéraire.
Bien, il fait beaucoup parler de lui, en tout cas. Sylvain Prudhomme, jeune auteur, originaire du sud de la France, la Seigne-sur-Mer. On salue le Var au passage. Merci beaucoup, Thomas, avec Par les routes aux éditions Gallimard l'Arbalète. Déborah Damblon, un coup de gueule en Belgique.
Ben oui, voilà. Alors n'en dites pas plus, Emmanuel. Vous avez remarqué, comme il y a des tas de gens, des journalistes, des auteurs, des libraires, quand ils veulent être convaincants en parlant d'un livre, eh ben, ils le racontent jusqu'au bout, carrément. Comme s'ils passaient un examen. Alors moi, j'ai juste envie de leur dire, stop les gars, arrêtez. Alors, s'il vous plaît, j'ai juste envie qu'on demande à Pennac de rajouter un 11e droit à ces 10 droits du lecteur, celui de ne pas connaître la fin. S'il vous plaît, laissez-nous la surprise, quoi.
Et à la fin, d'ailleurs, Alexandre Labruf, dans son livre, va finalement concrétiser avec sa copine, avec la japonaise. Voilà, c'est dit. Merci. Non, mais c'est une nano-histoire, on s'en fiche. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci pour ce coup de gueule, Déborah.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Abdourahmane Ouaberi est dans la librairie pour son livre « Pourquoi tu danses quand tu marches » aux éditions Jean-Claude Lattès. Le narrateur raconte son enfance à sa fille, votre vie à Djibouti, Abdourahmane. Vous évoquez ces gaullistes à l'époque qui se sentaient depuis Djibouti plus français que français. Un grand gaulliste est mort jeudi en France, Jacques Chirac, surnommé l'Africain. Il est vrai qu'il a visité près de 40 pays sur le continent au cours de sa présidence, avec des rapports très personnels avec les chefs d'État de ces pays, y compris avec les chefs d'État les plus controversés.
Oui, écoutez, Chirac, c'est quand même notre vie. Hein. J'ai passé une grande partie de mon existence dans ce pays. Et donc, les Chiraciens, les Corréziens, les maires de Paris, l'Africain, les expressions comme la pomme, la tête de veau, le cul de vache, tout ça, c'est Chirac. Et c'était un homme formidable. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Ce que je retiens de lui, c'est les francophones. Il avait un amour de la langue française. Ouais. Et en 2006, il avait reçu... une palanquée d'écrivains francophones dont j'étais. Il avait toujours eu pour chacun un mot sympathique. Ils s'enquéraient de nos pays d'origine, etc. Même s'il avait toujours les meilleures relations avec les dictateurs, avec certains dictateurs, comme Sassou Nguesso, comme Biya ou comme Bongo.
Bongo, oui.
Il avait aussi un vrai amour, je pense, des gens et des Africains aussi.
Vous vous souvenez de l'image de Jacques Chirac à Djibouti lorsqu'il était président de la France ?
Je ne me souviens pas, mais par contre, j'ai accueilli mon premier président. Pour moi, c'était Pompidou.
Ah oui.
Enfin, j'avais accueilli Pompidou avec mon petit drapeau.
Mais quelle image il avait à Djibouti?
Il avait cette génération de gaullistes. Donc, ce sont des gens qui aimaient la France, mais qui aimaient aussi le monde extérieur. Donc, les gens l'aimaient, je pense, même s'il, évidemment, il défendait des intérêts français. Mais en tout cas, c'était un homme qui savait descendre dans l'arène et qui parlait aux gens.
Il avait reconnu d'ailleurs le pillage de l'Afrique à la fin de son mandat, en disant même qu'une grande partie de la richesse française vient de l'exploitation de l'Afrique.
Oui.
C'est incroyable de dire ça.
C'est la contradiction de l'homme.
Ouais. Jacques Chirac restera comme un militant de la francophonie. Vous l'avez souligné, en 2006, il réunissait les auteurs francophones à l'Élysée. Je me souviens de ce moment parce que j'étais là aussi. Un homme de culture ouvert sur le monde. On lui doit notamment le musée du Quai Branly à Paris, musée des arts premiers, qui est l'un des plus importants au monde, tout musée confondu. Bon, on va parler de votre livre, Abdourahmane Ouaberi, Pourquoi tu danses quand tu marches, paru chez Lattès, parce qu'un jour, votre fille vous pose cette question-là. Papa, pourquoi tu danses quand tu marches ?
Oui, Emmanuel, j'ai eu d'autres enfants. J'ai eu deux enfants, deux garçons, mais à l'époque, ils ont dû me poser la question, mais j'avais pas les oreilles pour l'entendre. Donc, il a fallu que je traverse un bout de vie, on va dire, que j'atteigne ce qu'on appelle la maturité. Et un jour, donc, ma fille m'a dit « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» Mais en fait, elle avait déjà entendu une petite musique dans la famille. Cette musique disait « Tu ne peux pas demander ton père ça. » Voyez, tu ne peux pas demander à ton père de monter à cheval,
de faire du vélo,
voilà, ou de faire du vélo parce qu'il ne sait pas le faire, il n'en est pas capable, etc. Et donc cet enfant qui avait 5 ans à l'époque, 4 ans et demi, m'a un peu tanné en disant « Est-ce que tu sais faire ceci ou cela ?» Et au fait, elle voulait s'attaquer, ou en tout cas, elle voulait me faire parler de mon enfance et surtout de ma différence, parce que j'ai boite depuis que j'ai l'âge de 7 ans et je n'avais jamais parlé avant. Souvent, j'allais donner un coup de poing à celui qui allait évoquer ça. Donc, je suis revenu pour elle sur cette différence et sur mon enfance à Djibouti.
Alors, vous êtes un enfant assez faible physiquement, vous le racontez, mais bon élève.
Hein.
Vous étiez... vous n'êtes plus un enfant maintenant. Hein. Peureux, timide, vous écrivez ça, je ne me sentais pas entier comme les autres. Et vous vous réfugiez dans la lecture, comme les filles de votre entourage, ce qui vous vaut des insultes. Hein, voilà, les insultes habituelles et idiotes. Votre mère a une grande peur de la mort. Dans tout le quartier d'ailleurs, on a peur de la mort. Et lorsqu'un gamin un jour vous fait tomber volontairement et que vous revenez en sang, elle panique.
Oui,
et ça change votre vie, ça
absolument,
aussi.
Absolument, parce qu'on date, enfin c'est toujours pareil, mais je date en tout cas les traumas à cette période-là, puisque j'ai eu quelques semaines plus tard la polio. J'ai attrapé la polio et donc le fait que je sois tombé, c'était le premier jour de la classe, hein, donc c'est déjà une humiliation devant tout le monde et un geste un peu, on va dire, de sadique quasiment. Et donc voilà, moi à partir de ces moments, je pense que je me suis renfermé comme une huître et voilà, ça a changé le cours de ma vie.
Alors vous confiez à votre fille Béa le manque d'affection de vos parents. Votre mère vous délaisse à partir du moment où elle a un nouveau bébé. Mais cela semble avoir renforcé votre personnalité, Abdourahmane Ouaberi. Quand on n'a pas l'amour de ses parents, on est obligé de compenser, on est obligé d'exister autrement.
C'est pas seulement qu'elle m'aimait pas, c'est plutôt qu'elle était très jeune. On n'apprend pas à être mère. Hein. Elle était très jeune, elle a eu un enfant, un premier enfant qui est mort. Et moi j'arrive, j'étais maladif, donc j'allais partir, pensait-elle. Et donc, au fait, elle me filait aux cousines, aux tantes, etc. Donc, elle avait une peur de m'avoir dans les mains et elle avait une peur d'être en mère. Elle avait une peur de cette situation. Et après, on est dans la famille africaine. Donc, ce manque d'attachement maternel a été compensé par l'intervention de la grand-mère, par exemple.
La grand-mère. Tantes, ouais. Voilà. On va en parler dans un instant. Vous racontez aussi votre circoncision très vite, Abdourahmane Ouaberi, parce que c'est un rituel, un sujet.
C'est un classique.
Voilà, c'est un classique. Beaucoup d'écrivains l'abordent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas autant de conséquences qu'avec l'excision chez les filles. Mais ça reste une mutilation quand même traumatisante pour le petit que vous étiez.
Aujourd'hui, c'est devenu un geste véniel, hein. D'intervention chirurgicale. Ouais. Mais avant, il y avait quelques risques quand même. On pouvait en mourir, on pouvait avoir une hémorragie, on pouvait, voilà. Mais c'est aussi une frayeur parce que c'est l'entrée dans l'âge d'homme et donc la société les marque par cette mutilation symbolique, mais mutilation quand même, vous voyez.
Ouais. On donne votre prépuce à manger au chat. Ce que vous racontez,
c'est une invention d'auteur. Mais
j'espère. Bon. Voulez-vous entendre nos libraires, Abdourahmane Ouaberi?
Absolument.
Allez, la Suisse, la France et le Canada. Commençons par la France. Thomas Hausser.
Eh ben alors moi j'ai beaucoup aimé votre tonalité enjouée et puis ce que j'ai aimé dans votre livre c'est qu'on sent que vous aimez les livres. Donc c'est un roman qui est très plaisant à lire et puis il est aussi question de ce coin de l'Afrique que je connaissais pas. J'ajouterais que votre roman est à la fois nostalgique, qu'il est plein de souvenirs et aussi qu'il est pétillant. Et ça c'est assez rare tout ça ensemble, donc moi je conseille.
La Suisse, Dominique Bressoux, ça vous irait?
Ah bah parfaitement.
Ah oui, complètement aussi. C'est une véritable pépite ce livre, hein, tant pour l'écriture que pour l'émotion qui s'en dégage. Mais en fait, surtout ce qui m'a frappé, c'est la force de vie, le refus de se victimiser de l'auteur. Tout au long de son enfance, il a réussi à saisir les moindres chances d'échapper à son sort. Et puis en prime, alors quel bel hommage à la lecture comme planche de salut et aux bibliothèques comme nécessité vitale.
Le plus intègre, le pire de tous aussi parfois. Jérémy Laniel est au Canada. Il a... Ne regardez pas comme ça. Jérémy, pourquoi tu danses quand tu marches? Est-ce un livre qui vous a plu?
Absolument d'accord avec mes collègues libraires cette fois-ci. C'est un livre qui aurait pu vraiment être celui d'une anecdote quelconque, hein, si ce n'était pas de l'efficacité de son écrivain dans ses chassés-croisés narratifs. C'est qu'au-delà de l'anecdote, Ouaberi danse dans son écriture, dans son rythme, propose quelque chose vraiment qui n'a pas le côté stagnant des souvenirs, comme trop souvent on le lit. Le roman ressort comme une efficace proposition d'un livre sensible et absolument bien mené.
Vous avez tout aimé en fait aujourd'hui, Jérémy?
Mais vous savez, moi, lorsque j'ai des bons livres, vous savez ce que je peux en faire, Emmanuel.
C'est vrai, des miracles. Merci beaucoup, Jérémy. C'est votre grand-mère, Abdourahmane Ouaberi, qui vous raconte des histoires. Vous avez le goût comme ça pour l'imaginaire. Vous devenez très bon en rédaction, à tel point que tout le monde vous demande d'écrire des choses à leur place, comme un écrivain public, que ce soit à l'école ou à l'extérieur. On se dit, il faut aller le voir. C'est lui qui sait écrire.
Bah écoutez, j'ai eu la chance d'avoir une série, une lignée d'institutrices et d'instituteurs qui étaient très bons. Certains venaient de Bretagne, comme Pia Moustaki. Donc j'ai épousé, on va dire, la langue française et par leur biais, hein, par leur entrée. Donc ça m'a permis à la fois de me développer, mais aussi de voilà, développer des toxines pour se défendre. Attaquer. Aujourd'hui, j'ai défendu la littérature française aux États-Unis, donc c'est pas un hasard. Tout ce que j'ai raconté est vrai, donc la littérature m'a d'une certaine manière sauvé. Je suis resté fidèle aux poèmes, à la langue, à la poésie, parce que je ne savais pas danser sur les terrains de foot, que je n'étais pas très fort à la cour des récré. Ouais. Donc voilà, chacun fait ce qu'il peut ou il peut. Ouais. Mais c'est vrai que ça, le parcours du livre et de la bibliothèque est une excellente manière de se former. J'ai dit souvent que la littérature, c'est une famille qu'on peut adopter. Hein.
Et quand votre grand-mère disparaît, vous dites que c'est tout un pan de votre histoire qui disparaît.
Ben, la grand-mère, c'est les racines africaines, c'est l'oralité, c'est les rapports à la magie, parce qu'elle imaginait Emmanuel. Elle disait souvent qu'il faut saluer les personnes réelles, vraies, mais aussi il faut saluer les plantes, ce qu'on appelle les vivants aujourd'hui. Mais elle disait il faut saluer aussi les absents, donc la lignée des gens qui nous a, nos parents, nos arrière-parents. Donc elle voyait ces mondes-là de visu, hein, j'allais dire, et donc j'étais très affecté, contaminé par elle quand j'étais à ses côtés, parce que tout d'un coup, mon monde s'animait, ouais. On avait l'impression d'être dans un film en technicolore en même temps.
Puis c'est la tradition orale aussi, c'est l'écrivain malien Amadou Mbateba qui disait « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ».
Plus jeune, j'avais un peu dénigré Mbateba, mais aujourd'hui, je suis revenu. Je suis un idolâtre de Mbateba. J'écris un certain nombre de papiers dans le monde, notamment pour lui rendre hommage, mais c'est tout à fait vrai parce que Mbateba est justement cette génération qui a la charnière entre le nouveau monde africain et l'ancien monde africain.
Et avec votre fille, vous avez voulu transmettre Abdourahmane Waberi, lui donner aussi un esprit vagabond avec des voyages, comme Pia Moustaki avec son père tout à l'heure, en fait.
Absolument.
Vous voyagez avec elle?
Je voyage avec elle, on voyage déjà. À son âge, elle a déjà voyagé plus que beaucoup de gens ordinaires, j'allais dire.
Voilà, la boucle est bouclée. C'est parfait.
Merci Emmanuel.
Ça, c'est une émission qui est rondement menée, grâce à vous.
Merci à vous Emmanuel.
Abdourahmane Waberi, Pourquoi tu danses quand tu marches? Votre roman est paru chez Jean-Claude Lattès et c'est un livre qui est en lice pour le prix Renaudot. On vous souhaite également bonne chance. Merci Abdourahmane. À bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à un jeune artiste francophone. Voici l'artiste belge Samir Baris.
Elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les gens penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée et je lui dis: veux-tu t'en venir dans les champs? Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. Et je lui dis: veux-tu, c'est le mois où l'on aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds? Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois et la belle folâtre alors devint pensive, comme les oiseaux chantaient au fond des bois. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois. Doucement le rivage,
comme l'eau caressait doucement le
rivage,
comme l'eau caressait doucement le rivage.
Je vis venir à moi dans les grands roseaux verts la jeune fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. Ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. C'est Elle était décoiffée, assise les pieds nus, parmi les gens penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis, veux-tu t'en venir dans les champs?
Le Belge Samir Baris avec Sous les arbres profonds, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Stéphane Boja. Merci Pierre Moustaki.
Merci
Abderrahmane Waberi, Alexandre Labruf. Merci. Bonne chance pour les prix à tous les deux. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Tocher en Suisse, René Mikils avec Valérie Leputon en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, Eric Orsena, Marie Desplechin pour la librairie verte, Jean-Michel Olivier et la chanteuse Natacha Atlas qui jouera dans notre studio. Passez une bonne semaine et un bon week-end. À bientôt, salut.